Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, en cure, dans le Caire et pas encore sur le carreau. Bonjour et bienvenue, vous écoutez L'Onde Curieuse sur Fréquence 7 et vous avez bien raison. Ce midi dans L'Onde Curieuse, un menu minceur, celui de l'hôpital public et plus généralement la santé publique, avec comme entrée celle des urgences, c'est-à-dire celle qui peut ne jamais arriver, une entrée très légère, voire carencée pour commencer. Ensuite, un plat de résistance aux antibiotiques, gonflé par certaines entreprises pharmaceutiques qui nous veulent du bien, plus difficile à digérer, on en prend moins. On poursuit avec le fameux trou normand de la Sécu, qui est traditionnel, pas nouveau donc, mais qui engloutit bien des questions fondamentales qui ne sont plus posées. Et on termine avec le désert médical, car en Ardèche, 20% des Ardéchois n'ont déjà plus de médecins traitants. Voilà donc un régime hypocalorique pour la santé au menu de ce midi. On en parle dans un instant avec nos invités à l'occasion de la conférence gesticulée qui aura lieu ce soir à 18h à La Bobine. La Bobine, c'est en dessous de l'Airette à Aubenas. Bonne nouvelle, vous êtes hospitalisés. Une conférence gesticulée créée et animée par Éric Davra, ex-cadre infirmier, qui est là avec nous. Bonjour Éric.
Bonjour.
Merci. Tu es là grâce à l'invitation de l'Association des usagers de l'hôpital d'Aubenas et son président Joseph Matouk est avec nous aussi. Bonjour Joseph.
Oui, bonjour.
Et merci d'être ici autour de cette table. Merci Sylvain, qui est là pour rendre tout ça possible. Eh ben, on commence tout de suite avec l'agenda. Et pour commencer l'agenda, une forme hybride également, on n'est pas dans la conférence gesticulée, mais presque. Marion.
Bonjour. Alors, pour commencer, pour les amateurs de spectacles originaux, notez bien, ce soir à 19h30, rendez-vous à Graines de Rencontre, au 2 bis place de Masseguis, Auvence. Donc on retrouve Julie, alias Nathalie, de son nom de scène, qui vous propose un spectacle unique mêlant clown, rap et patrimoine. Une belle occasion de découvrir un univers surprenant. L'entrée est gratuite avec une participation au chapeau.
Ce soir toujours, vous aurez peut-être le temps, après la conférence gesticulée si vous êtes à Aubenas, pour une autre proposition engagée. C'est à 20h au cinéma Le Navire, il y a un ciné-débat organisé par la CNT, Interpro 07, Ensemble 07 et le MRAP d'Aubenas, autour du film Béziers, l'envers du décor, réalisé par Daniel Kupferstein. Le film explore, à travers le journal municipal devenu Journal du Biterrois, la gestion de la ville sous Robert Ménard. Robert, élu maire en 2014 avec les voix du Front National, une enquête qui plonge au cœur de l'une des villes les plus pauvres de France, en partant à la rencontre des habitants et des militants. Et évidemment, c'est là toute la plus-value. Le réalisateur Daniel Kupferstein sera présent pour échanger après la projection. C'est donc ce soir à 20h au cinéma Le Navire.
On reste dans l'univers du cinéma avec une projection ce soir à 20h30 à Lussas, dans la salle de cinéma du Centre culturel. Dans le cadre du printemps du documentaire, la Maison de l'Image, en partenariat avec Ardèche Images, clôture sa série de projections avec « Ce n'est qu'un au revoir », un film de Guillaume Braque, qui sera présent pour l'occasion. Tourné dans la Drôme, ce documentaire suit de jeunes lycéens d'un internat à Die, à l'approche du bac, entre doute, engagement et nostalgie. Le tarif est entre 4 et 6 euros, et pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site printempsdocumentaire.com.
À voir ce soir également un homme à bout qui commet l'irréparable. Alors vous, Éric, heureusement, vous avez commis une conférence gesticulée face à l'injustice, mais l'histoire que raconte la pièce article 353 du Code pénal qui sera jouée ce soir à la salle intergénérationnelle de Saint-Alban-Auriol en raconte une autre. C'est une création atypique, adaptée du polar que vous connaissez peut-être, le polar à succès de Tanguy Viel, qui met en scène et interprété par Emmanuel Noblet. On est en Bretagne. Un homme se confie à un juge. Il a jeté à la mer le promoteur véreux qu'il a escroqué. Il plaide coupable et remonte aux origines de son acte. Est-ce qu'on peut justifier un geste criminel? C'est un spectacle proposé à l'invitation de l'association Ligne d'Horizon par la Comédie itinérante de Valente. Les tarifs de 7 à 14 euros. C'est ce soir à 20h à Saint-Alban-Auriol. Marion, on parle de la conférence gesticulée qui a lieu à la Bobine. Et justement, si vous voulez vous impliquer dans la vie associative...
Eh bien, notez que la Bobine organise son assemblée générale ce vendredi 11 avril à 17h30. L'émargement débutera vers 16h30 et la soirée se poursuivra autour d'un repas partagé vers 20h. Si vous souhaitez recevoir les documents à l'avance, n'hésitez pas à en faire la demande par mail à labobine.asso@gmail.com.
Et allez, on va terminer avec un peu de douceur, un peu de légèreté et un concert à ne pas manquer. Ce sera demain à 20h45 avec le duo Temple qui sera au centre Le Bourneau pour enchanter nos oreilles et nos yeux aussi. On commence à les entendre après deux résidences en 2021 et 2024. Ils présentent enfin leur projet, ils vont vous présenter leur projet qui mêle folk alternatif, musique progressive et électro. C'est Julien Brion au chant et à la guitare, accompagné de Johan Covin au clavier. Et vous entendez cet univers sonore qui est aussi un univers visuel. En live du duo Temple, un projet musical et visuel à voir demain soir au centre Le Bourneau. Blind aveugle. Nous le sommes peut-être, nous aussi, face au torpillage de l'hôpital public et de la sécurité sociale. Et pourquoi le sommes-nous aveugles et apathiques ? Eh bien, ce sont les questions principales que pose votre conférence gesticulée qui aura lieu ce soir à 18h à la Bobine à Aubenas. Bonne nouvelle, vous allez être hospitalisé. Éric Davra, vous êtes ex-cadre infirmier et vous êtes avec nous pour en parler. Et avec nous également Joseph Matouk, président de l'association des usagers de l'hôpital Aubenas, qui a fait venir Éric. Merci encore à tous les deux d'être là. Alors, pour commencer, une brève présentation, Joseph, de ce qu'est votre association, l'association des usagers de l'hôpital d'Aubenas. Si je dis que vous êtes un comité, que vous faites partie d'une coordination nationale, ce qui vous permet d'échanger régulièrement avec d'autres comités d'usagers, et que vous défendez l'accès à un hôpital de proximité, et au-delà à une médecine dite de ville, de proximité et de qualité, est-ce que c'est à peu près...
C'est exactement ça. On part de l'hôpital public pour essayer de définir ce qui peut rendre un service en proximité pour la population.
Et alors Joseph, pourquoi vous avez invité Éric Davra à faire cette conférence gesticulée ?
C'est-à-dire qu'on a fait plusieurs initiatives les dernières années par rapport aux déserts médicaux et par rapport aux difficultés de soins. Et on avait fait une enquête, par exemple, sur le nombre de personnes qui n'avaient pas de médecin traitant. Et c'est là qu'on en a trouvé 400. On a eu 400 réponses et on a trouvé qu'il y avait 20% de gens qui n'avaient pas de médecin traitant. Et donc, ça nous a interpellés parce que il y a quelques années, c'était pas aussi poignant, quoi. C'était vraiment il y a 5-6 ans. On arrivait à toujours à retrouver un médecin traitant, mais avec la démographie médicale, ça baisse, quoi.
On en parlera sans doute, la désertification médicale. On rappelle ce que c'est qu'une conférence gesticulée, ça, en deux mots peut-être, Éric.
Une conférence gesticulée, c'est une sorte de Scooby-Doo un peu, c'est-à-dire trois fils. Un fil d'expérience professionnelle, c'est-à-dire de réalité du terrain, un fil de théorie, et puis un fil d'expérience de sa vie professionnelle, et on tresse ces trois fils pour en faire une conférence gesticulée.
Alors c'est un format assez original. Pourquoi vous avez choisi ce format hybride entre récit personnel et exposé politique pour parler d'un sujet aussi grave que la destruction de l'hôpital public? Et en quoi ce format, ça apporte quelque chose en plus?
Ça apporte quelque chose en plus parce que ça part du résultat qui est de la politique générale. Qu'est-ce que ça donne en vrai, dans la vraie vie? Qu'est-ce que ça donne auprès des gens? Et du coup, ça m'a semblé être un format assez intéressant pour pouvoir mobiliser les gens parce que ça parle de leur vie, en fait, à eux, et plus de la théorie politique.
Alors la théorie politique, justement, vous dites bien, c'est une conférence gesticulée qui dure à peu près 1h15, pas tout à fait, qui mêle vraiment, vous avez raison, qui tricote vraiment entre des expériences personnelles que vous avez vécues, et puis une analyse politique qui est terrible, avec deux questions. On va revenir sur ces deux questions, mais d'abord, pour que les auditrices et auditeurs se rendent compte un petit peu, un petit extrait qu'on écoute tout de suite de la conférence.
Allô Émilie, c'est Eric à l'appareil. Dis donc, j'ai regardé là sur la disponibilité des lits. Tu as un lit vide ce soir. Malheureusement, je vais être obligé de le prendre parce que j'ai une malade en aplasie et tu es d'accord que je ne peux pas la garder dans les urgences. Et là, ma collègue me répond, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Le lit est réservé pour une jeune femme de 25 ans à qui on vient déjà de repousser deux fois la chimiothérapie. Je cherche une autre solution, je n'en trouve pas. J'appelle le directeur de garde, il me répond, prenez le lit réservé, ça ne me pose aucun problème moral. Eh bien, moi, ça m'en pose un de problème moral. Comment est-ce que je peux me retrouver, moi, dans la situation de choisir à qui je fais perdre des chances de survie à la dame en aplasie ou à la jeune femme de 25 ans ?
Dilemme terrible. Dilemme terrible qui, on l'entend à l'écoute de cette conférence gesticulée, égrène tout votre parcours, puisque vous avez été pendant 40 ans infirmier à l'hôpital et 20 ans aux urgences. Alors, donc, avec toutes ces situations terribles, insupportables, que nous sommes peut-être nous aussi amenés à vivre, à nous retrouver dans ce couloir en train d'attendre notre tour, vous tirez finalement deux questions principales et qui m'intéressent aujourd'hui. On a finalement peu de temps et j'aimerais bien qu'on se concentre là-dessus. Est-ce que vous pensez, comme l'a suggéré votre conférence gesticulée, que l'État détricote de manière consciente l'hôpital public et la sécurité sociale au profit d'intérêts privés ? Première question.
Bien, écoutez, en fait, moi, j'ai constaté pendant ces 20 ans, j'ai été cadre infirmier pendant 20 ans dans un service d'urgence, il y a 20 ans, quand on avait plus de 16 malades, il y a 16 places dans ce service, quand on avait plus de 16 malades, on criait au scandale. On appelait le directeur de garde, on lui disait faut arrêter de fermer des lits. Et en fait, 20 ans plus tard, quand on a 11 patients dans le couloir, on dit c'est calme aujourd'hui. On entasse 40, 50, 60 patients dans le couloir pour 16 places. Et du coup, je me suis demandé, mais comment ça se fait qu'on en arrive là? Parce que la France est quand même un pays qui devient de plus en plus riche. Et le problème du médecin traitant, je veux dire que les 6% de la population française n'a plus de médecin traitant, 20% d'après ce que j'ai compris en Ardèche, c'est pas une surprise. On le sait depuis 2000 qu'il va y avoir un problème de population médicale à partir de 2020. Donc c'est pas une surprise. Donc je me suis dit, si c'est pas une surprise, comment se fait-il que l'État n'ait rien fait pour améliorer ces choses-là? Et donc, quand on regarde de plus près et qu'on éclaire un petit peu la situation sous cette lumière-là, sous cet éclairage-là, on se rend compte qu'effectivement, l'État cherche à envoyer vers les entreprises, les services de soins privés à but lucratif, toute l'activité qui est rentable. C'est-à-dire que, pour faire court, les milliards de la sécurité sociale intéressent le privé et du coup, ça se fait au détriment du service public qui se retrouve à gérer toutes les activités non rentables, c'est-à-dire toutes les activités dont le privé ne veut pas.
C'est assez édifiant, hein, votre conférence, ça reprend l'intégralité presque de l'histoire de la sécurité sociale. Comment petit à petit l'État s'est emparé de la sécurité sociale, puisque, vous pouvez le rappeler, la sécurité sociale au départ, c'était géré par les bénéficiaires, par les cotisants. Exactement. Ou Joseph, si tu veux dire. Et puis, progressivement, jusqu'à les derniers coups de grâce en 96 avec Juppé, qui propose une loi de financement de la sécurité sociale. Depuis cette époque-là, c'est tombé dans l'escarcelle de l'État, qui donc en fait autre chose.
Alors, Alain Juppé, il n'a pas proposé, il l'a imposé. En fait, ils ont, à partir du moment où on a la loi de financement de la sécurité sociale qui est votée tous les ans par le gouvernement, c'est-à-dire qui entérine les décisions du, qui est votée par le Parlement, pardon, qui entérine les décisions du gouvernement, l'État, le gouvernement a repris la totalité du pouvoir sur comment on répartit l'argent de la sécurité sociale. Et au départ, l'argent de la sécurité sociale, effectivement, était géré par les bénéficiaires eux-mêmes, c'est-à-dire par les salariés. Et les divers gouvernements depuis n'ont jamais pu supporter ça. Et je vous invite d'ailleurs à écouter à ce propos tout ce que dit un économiste, Nicolas da Silva, qui a décortiqué cette histoire de la sécurité sociale de façon tout à fait intéressante.
Vous pourrez lire avantageusement La bataille de la sécu, une histoire du système de santé, donc de Nicolas da Silva, et vous pouvez l'entendre à la fois un petit podcast très intéressant qui s'appelle Les idées larges sur Arte, où il parle très bien de ça, ou sur France Culture aussi, on entend Nicolas da Silva. Joseph, tu voulais ajouter quelque chose?
Oui, c'est important la sécurité sociale, parce que je pense que c'est le nœud de l'histoire. On a dépossédé, tu le disais tout à l'heure, Eric, on a dépossédé les salariés de pouvoir décider comment organiser le soin et comment prendre en charge des gens. Et par les lois de Juppé, et en fait ça a entraîné comment dire, la sécurité sociale, c'est aussi quelque chose qui est hors marché, c'est un système qui est hors marché, et c'est important de le dire, parce que finalement de le remettre dans le circuit de loi de financement, ça le remet dans le circuit, et ça c'est grave. Ça c'est grave parce que on dépossède des salariés de leur salaire indirect, parce qu'en fait c'est leur salaire indirect, les cotisations, c'est pas les charges, c'est pas ce qu'on veut, ce qu'on dit tout le temps, mais c'est vraiment le salaire indirect des salariés, donc ils devraient garder la gestion de ce système.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, c'est intéressant parce que c'est une remise dans la logique de rentabilité, oui. Hein, c'est bien ce que tu dis, dans la logique de rentabilité, et ça me tend une perche pour la deuxième question, c'est-à-dire comment nous en sommes venus à nous dire que c'était un système de rentabilité, donc c'est normal, la situation de l'hôpital public telle qu'elle l'est aujourd'hui est absolument normale, il n'y a rien à faire, c'est irrémédiable. C'est la deuxième grande question que vous posez, Eric.
Eh bien, je pense que pour la population, et la sécurité sociale et l'hôpital public, c'est une évidence. Et donc, ils n'ont absolument pas la notion qu'elle est attaquée et que cet hôpital public est attaqué. Et pour leur en faire prendre conscience, il faudrait que les médias les plus écoutés attirent leur attention là-dessus. Or, justement, ils nous expliquent à longueur de journée qu'on n'a pas, le choix. Par exemple, ils parlent tous les jours du trou de la sécurité sociale, du déficit. Depuis le début de la création de la sécurité sociale, les médias et les gouvernements ont insisté sur ce déficit. Or, la sécurité sociale est toujours en vie. Nicolas Da Silva explique qu'elle est même plutôt en bonne situation financière.
En 2022 ou 2023, il y avait plus 9 milliards.
Absolument. Et donc, elle a absorbé la crise financière de 2008. Elle a absorbé la crise énorme du Covid. Donc en fait, la théorie, c'est que ce trou de la sécurité sociale, il est cultivé par les gouvernements successifs pour faire peur à la population et pour dire que ça ne marche pas. Mais en fait, la population est persuadée qu'on n'a pas le choix parce que les médias nous expliquent qu'on n'a pas le choix. Or, c'est faux.
Joseph.
Oui, on crée ce déficit, on le crée artificiellement, puisqu'en fait, y a des baisses de cotisations, des cadeaux qui sont faits aux entreprises par rapport à ça. En plus, par exemple, on mettrait les salaires des femmes au même niveau que ceux des hommes, on aurait 6 milliards de plus à la Sécu. Donc, il y a des ressources possibles, et il y a des. Parce qu'on donne de l'argent aux entreprises sans vérifier que ça soit efficace. Au niveau et de l'emploi et au niveau social. Voilà. Et en même temps, pendant ce temps-là, on détruit l'hôpital, puisque, par exemple, il n'y a pas très longtemps, dans le Dauphiné, hein, c'était marqué dans le Dauphiné, dans les 5 dernières années, il y a eu 400 lits qui ont été supprimés à l'hôpital public.
Merci. Tu replaces le débat et je voulais en venir là aussi. Non, très bien. Sur ce qui se passe ici sur notre territoire. Parce qu'on a l'impression. On se rend bien compte que la situation est terrible. Donc, tu as parlé de 20% de personnes sans médecin traitant. On peut dire que il y a 4,4% des Ardéchois en affection de longue durée qui n'ont pas non plus de médecin traitant. Il y a 40% des Ardéchois qui ont d'importantes difficultés à obtenir un rendez-vous avec un généraliste. 82% pour les gynécos, n'en parlons pas. Enfin bref, donc il y a des difficultés. Et puis, on sent qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives de la part des collectivités territoriales ou de l'hôpital lui-même pour essayer de proposer des choses.
Oui, on parle des maisons de santé, mais moi je trouve que c'est trop dépendant de la médecine libérale. Parce qu'en fait, les installations de maisons de santé, elles sont financées effectivement par les collectivités locales, largement même, plus que des centres de santé, mais j'y reviendrai. Et donc, en fait, si un médecin décide de ne pas s'installer, ou s'il veut aller ailleurs, il peut très bien aller ailleurs comme il veut. D'ailleurs, j'ai des informations à travers des études qui ont été faites. On a plein d'aides qui sont faites au niveau de la Sécu ou de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, pardon. Et en fait, qui aide à installer des médecins. Et on s'aperçoit que depuis 4 ans, ça n'a pas bougé le même nombre de médecins. Il y a pas plus de médecins en Ardèche qu'il y avait il y a 4 ans. Mais c'est logique parce qu'il y a une démographie qui fait que ça baisse. Et alors, on fait tout un tas de publicités. La région a fait une grosse publicité sur les médecins qui sont installés là-dessus, dans le territoire, et les aides qu'ils font. Et c'est pas juste. Et je pense qu'il faut essayer de trouver une autre forme d'exercice. Parce que je pense que l'exercice libéral a vécu. Mmh. À terme, il a vécu.
Oui.
Il faut des centres de santé, et si j'ai un peu de temps, je l'expliquerai.
Voilà, ouais, non, la différence importante entre maison de santé, où c'est un cabinet libéral de différents médecins qui s'unissent simplement pour mutualiser des frais en commun, et centre de santé qui est porté par une collectivité où les médecins sont salariés. Mmh. Voilà, distinction, effectivement. Mais je pensais à d'autres initiatives, notamment au PASS, c'est-à-dire la première année va avoir lieu là en septembre, à la rentrée, une antenne de l'hôpital de Lyon, ici installée à Aubenas, pour donner la possibilité aux jeunes Ardéchois de faire cette première année qui est tellement coûteuse à tout point de vue. De pouvoir la faire ici sur place. Ça, c'est une initiative intéressante.
Oui,
justement,
c'est
pour
vrai.
Essayer de combler ce. Alors, tu parlais, effectivement, le problème original, c'est le trou de la sécurité. Enfin, pas le trou, mais la sécurité sociale qui cristallise un petit peu tout ça, mais aussi le numerus clausus qui a fait que. Numerus clausus, c'est-à-dire qu'il y a un nombre délimité de médecins qui peuvent sortir des études. Et là, on est au numerus apertus.
Oui, ça passe.
Voilà, est-ce que ça change quelque chose?
Juste le nom.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais c'est ça la question, en fait, puisque on sait très bien qu'il y a une pénurie de médecins et on cultive cette pénurie de médecins. Donc, quel est l'intérêt? La question de base, c'est quel est l'intérêt de l'État à cultiver la pénurie de médecins? Il faut savoir.
Alors, la question. Et la réponse?
La réponse, moi je ne l'ai pas vraiment. Juste, on se dit qu'il a un intérêt à cultiver cette pénurie de médecins. Alors, au départ, c'était parce qu'on accusait les patients de faire du nomadisme. On nous l'a vendu comme ça. Hein. Au départ, le numerus clausus, il faisait du nomadisme médical. Donc, et ils ont voulu diminuer le nombre. Ben, ils allaient voir plusieurs médecins. Pour la même raison. Donc ils ont voulu diminuer le nombre de consultations au nom des économies à faire à la sécurité sociale déjà. Mais je voudrais quand même dire une chose, puisque vous parlez d'initiatives de l'hôpital et tout, il faut savoir que cette politique, c'est très dommageable pour les patients, parce que 4% de patients en ALD des patients qui ont une maladie chronique, qui n'ont plus de médecin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un mois, votre ordonnance est terminée, vous ne pouvez plus avoir de médicaments à la pharmacie. Qu'est-ce que vous allez devenir? Donc vous allez essayer d'aller aux urgences, mais aux urgences, vous allez devoir être appelé le 15, on va peut-être pas vous autoriser à venir, parce que là aussi, on a choisi d'empêcher les patients de venir plutôt que de rouvrir des lits. Okay, donc ça veut dire ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une situation urgente et dramatique. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut rester bien conscient que ça rend très malheureux tous les soignants. D'accord ? On se demande pourquoi on ne trouve plus d'infirmiers, on ne trouve plus d'aides-soignants, parce que on travaille dans une telle contradiction par rapport à nos valeurs soignantes, que ces soignants, ils ont fini de défendre leur, leur hôpital, finalement, beaucoup, beaucoup d'entre eux jettent l'éponge. Ça les rend malheureux, finissent en burn-out. Enfin, voilà. Les soignants continuent de défendre les patients et leur hôpital bec et ongle, malgré la situation dans laquelle on les met volontairement. Je pense qu'il ne faut jamais perdre ça de vue. Et voilà. Donc, toute la population a intérêt à aider ces soignants à sauvegarder l'hôpital public.
Et comment ?
Alors comment, comment dire, il faut déjà savoir pour qui on vote, hein, parce que si on vote pour quelqu'un dont l'idéologie est de détruire les services publics, bah, faut pas s'étonner après qu'on n'a plus de services publics. J'ai l'impression que les personnes font pas vraiment le lien, voilà. Et puis garder la conscience que finalement, il ne faut pas laisser faire les choses par l'action politique et soutenir les collectifs et les associations qui se battent vraiment beaucoup pour essayer de sauvegarder ce service public et qui, à mon avis, ne sont pas vraiment soutenus par la population. Ils ont beaucoup de mal à se faire entendre et à se faire soutenir.
Dernier mot pour toi, Joseph.
Oui, justement pour continuer dans cette logique-là, je pense qu'effectivement, au niveau des services publics en général, mais particulièrement du service public hospitalier, ce qui est important, c'est s'il y a un triptyque, c'est la population, le personnel et les élus. Et si on arrive à mettre en correspondance ce triptyque pour défendre un service, on y arrivera. Parce que chacun y a intérêt et chacun a sa manière pour développer les choses, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. Allez voir cette conférence gesticulée. C'est ce soir à 18h et c'est assez remarquable pour comprendre à la fois la souffrance aussi des soignants, mais aussi toute cette histoire et tous les tenants et les aboutissants d'une privatisation de services publics. Oui.
Il y aura un petit débat après, du coup, venez, on pourra en discuter.
Merci beaucoup Éric Davra, conférencier gesticulateur, et Joseph Matouk, président de l'association des usagers de l'hôpital de Benin, d'être venu dans ce studio. Merci. Merci Marion pour la préparation de cette émission et pour l'agenda. Et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Restez à l'écoute de Fréquence 7 à 15h. Ce sont vos messages grâce au Telex que vous pourrez entendre. D'ailleurs, si vous voulez en enregistrer, appelez le 04 75 93 30 25. À 17h, c'est la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 18h, la collective. Ciao.